This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو غلوبي.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
وبرافيو. كاسلي كينج.
تركيا فوتورا. سلاما. روسيا.
Rebonsoir et bienvenue. Riche jour dans le monde aujourd'hui. Éric Valmire en Californie. La géopolitique du grand dessinateur de BD Enki Bilal au micro de Christine Siméon. 18h55, une histoire dans le monde. Anthony Bélanger en Uruguay. Et tout de suite, direction le Kurdistan.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Lyon, 10 octobre dernier, les Kurdes manifestent.
On en a marre, on veut que maintenant les Kurdes soient en paix, on veut un Kurdistan libre, un Kurdistan à nous, un Kurdistan avec des chrétiens, des musulmans, de toutes les religions, on les accepte tous comme ils sont.
Un Kurdistan libre, dit cette manifestante, mais pour l'instant le peuple kurde vit à cheval sur la Syrie, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Un peuple sans État, pour reprendre l'expression classique, qui vit au cœur de la poudrière du monde contemporain, une zone de guerre perpétuelle dont les frontières seront peut-être redessinées à court ou moyen terme. Verra-t-on un jour émerger ces fameux États-Unis kurdes, ce Kurdistan libre, pour reprendre les mots de cette manifestante? C'est la question qu'on pose ce soir à nos invités. Un jour dans le monde en forme de rencontre au sommet de tous les Kurdes au micro de France Inter. Kendall Nezan, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Institut kurde de Paris, vous êtes kurde de Turquie. CV Aydin Izouli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, kurde de Syrie. Ali Dolamari, bonsoir.
Bonsoir.
Représentant du gouvernement régional du Kurdistan irakien. Et on termine ce tour de table avec Ajar Abdollahi, avocat lui aussi. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Et vous êtes kurde d'Iran, fils de Khosrow Abdollahi du Parti démocratique du Kurdistan iranien. Alors avant de parler des perspectives à long terme, celles à très court terme, le Parlement des Kurdes d'Irak vient de voter aujourd'hui l'envoi de renforts à Kobané, les fameux Peshmerga. On les attend pour quand, Kendall Nezan?
Écoutez, ça a été voté cet après-midi. Il y aura environ 2000 Peshmerga qui vont partir. En principe, ce soir, nous a-t-on dit. Mais ça dépendra évidemment de la Turquie, s'il n'y a pas trop de procédures, trop de difficultés. Donc, ce sont des renforts, évidemment, bienvenus, attendus par les résistants de Kobané, qui, depuis le 16 septembre, résistent aux assauts répétés des djihadistes dans cette région.
Quelles sont les dernières nouvelles de Kobané? Je pose la question à la cantonade. Quelqu'un veut répondre? CV Aydin
oui.
Izouli?
Oui, il y a eu des combats très violents encore aujourd'hui jusqu'aux 5h du matin. Et Daesh essaye quand même toujours de reprendre la ville. Quelques tristes nouvelles parce qu'avec les armements qui ont été parachutés par les Américains, il y a quelques colis qui sont tombés dans les mains de Daesh. Dans l'ouest de la ville, il y a encore, comme je dis, des combats. Ça a duré jusqu'à 5h du matin. Mais les forces, l'unité de protection du peuple du PYD ont réussi quand même à repousser cette nouvelle offensive. Il y a eu quand même 6 morts de côté des forces kurdes et à peu près une quinzaine de personnes de côté de Daesh.
Est-ce qu'on a une idée du bilan global, c'est une question que nous posent très souvent les auditeurs de France Inter, du bilan côté kurde, du nombre de morts depuis le siège de Kobané.
À peu près ce que j'ai lu hier, c'est de l'ordre à peu près de 636 combattants, voilà.
Morts. Est-ce que les uns ou les autres avaient de la famille ou des amis à Kobané? Question à la cantonade, là encore. Non,
des amis, non. J'ai des amis.
C'est très difficile d'avoir des informations ou pas, ou vous parvenez tout de même à joindre des gens sur place, Kendall Nezan?
On est informé régulièrement, plusieurs fois par jour. Tout à l'heure, avant de venir ici, donc, j'ai eu un appel du maire de la ville frontalière qui nous a dit à 15h, il y a eu des frappes américaines très puissantes, il y a des combats dans telle ou telle partie, on voit de la fumée. Malgré ça, une heure plus tard, il devait recommencer les frappes, donc on a des nouvelles. Mais bon, il y a des gens à l'intérieur de la ville aussi qui appellent ceux qui sont en Turquie, lesquels nous appellent. On est effectivement tenu au courant. Oui.
Ali Dolamari, représentant du gouvernement régional du Kurdistan irakien, je dis bien. C'est donc le Kurdistan qui a voté l'envoi des Peshmerga en soutien à Kobané. Comment voyez-vous la situation de Kobané depuis l'Irak ?
Tout d'abord, je suis le vice-représentant, je ne suis pas le représentant.
Cette précision est en fait, allons-y.
Pas de problème.
Mais je respecte l'étiquette et le protocole.
Pour nous, la stratégie du gouvernement régional du Kurdistan, c'est la même. Donc, c'est de battre vraiment le Daesh, même en Syrie, en Irak aujourd'hui. Parce que la stratégie aussi de Daesh a vraiment changé ces derniers temps, qui n'attaquait que des Kurdes. Aujourd'hui, on a à peu près plus que 1000 kilomètres de combat avec les Daesh. Donc, pour nous, c'est normal vraiment d'aider les forces kurdes au Kobané. Pour nous, c'est les mêmes.
Hajar Abdollahi, vous êtes kurde d'Iran. Même question, Kobané, vu depuis le Kurdistan iranien, ça donne quoi ?
Vu depuis le Kurdistan iranien, effectivement, ce sont une situation qui reste totalement insupportable pour les Kurdes d'Iran eu égard à la situation qui a lieu à Kobané. Et au-delà de ça, durant l'été dernier aussi, ce qui s'est passé, la situation aussi au Kurdistan d'Irak lors de l'attaque de Daesh au Kurdistan d'Irak. Et effectivement, la solidarité des Kurdes d'Iran est effectivement éternelle en ce qu'elle apporte toute sa solidarité. Et j'en veux pour preuve le fait que, à la demande des autorités kurdes d'Irak, le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran avait effectivement envoyé un certain nombre de Peshmerga, notamment dans la région de Mahmour et de la région de Gaver, pour justement lutter en commandement avec les autorités kurdes d'Irak, les ennemis de Daesh, et pour obtenir quand même une certaine victoire. Donc, vous voyez, il s'agit là vraiment d'un soutien solidaire, fraternel, politique, à l'encontre effectivement de cet ennemi commun pour toutes les Kurdes.
Est-ce qu'il y a eu un mouvement, Kendall Nezan, de cohésion, de recoalition de l'ensemble du peuple kurde, quel que soit le pays où il vit, depuis ce qui se passe à Kobané ?
Écoutez, ce que j'observe, c'est que pour la première fois, je pense, depuis l'exode kurde de 1991, et depuis l'époque de Halabja, il y a une mobilisation des Kurdes à travers le monde, quelles que soient leurs opinions, leurs régions d'origine. Je vois des manifestations des Kurdes dans toutes les villes du Kurdistan iranien. Je vois les Kurdes de Kazakhstan, de Caucase se mobiliser. En Europe, on voit la mobilisation des Kurdes parce que c'est considéré comme une bataille hautement symbolique, que les Kurdes ne peuvent pas et ne doivent pas perdre face aux islamistes, face aux djihadistes. C'est plus qu'un combat national, c'est un combat civilisationnel. On ne peut pas permettre aux djihadistes de s'emparer d'une ville kurde, de capturer les femmes, de les rendre à l'esclavage, d'assassiner les gens qui ne sont pas de leur version de l'islam. Et cette mobilisation-là est fondatrice et refondatrice d'une identité kurde commune. C'est là qu'on voit les intérêts nationaux kurdes converger quand il y a une menace commune.
Nationaux, vous avez dit.
Nationaux, exactement, puisque entre les Kurdes d'Iran, de Kazakhstan, de Géorgie et ceux d'Europe, ceux de la deuxième génération dont vous avez entendu tout à l'heure un témoignage, c'est l'élément commun. Et à Kobané même, les gens qui se battent ne sont pas uniquement de tel ou tel parti politique. C'est une milice citoyenne où les gens de tous bords luttent, femmes et hommes, pour combattre la menace djihadiste.
Les uns et les autres, vous vous pensez comme une seule et même nation, Seve Aydin Izouli ?
Oui, une même nation, effectivement, même si on est divisé dans quatre parties du monde, avec quatre pays, effectivement, la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak, mais on reste très fortement liés l'un à l'autre, et ce sentiment d'appartenance à une nation kurde, au peuple kurde, est un sentiment très fort.
C'est une image d'Épinal, ce que vous venez de dire, ou une fois qu'on a dit ça, il y a autant de divisions qu'il y a de Kurdes ici et là.
Oui, il y a des divisions comme partout ailleurs. Hein. Nous sommes aussi un peuple avec nos spécificités. Nous sommes de droite, nous sommes de gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des nationaux, des féodaux, des émancipés, des gens un peu plus conservateurs, donc de tous bords. Mais nous avons toujours su, et aujourd'hui encore on le démontre, lorsqu'il y a un ennemi extérieur commun, on peut prendre aussi une position commune et on peut être tout à fait solidaire.
Alors nous, on fait ici même en studio à France Inter en direct un mini sommet inter-kurde hein, avec l'ensemble des représentants des quatre pays où vivent aujourd'hui les Kurdes. Est-ce que une initiative un peu plus ambitieuse, je dirais, entre les dirigeants de chaque pays, des Kurdes de chacun des pays, pourrait un jour voir le jour? Et si oui, quand, Kendall Nezan?
Écoutez, on a déjà en 1989 à Paris rassemblé toute la diversité du monde kurde, c'était après Halabja. Mmh. Et là, on avait des représentants non seulement de l'ensemble des parties du Kurdistan, mais aussi de la diaspora, de l'Asie centrale également. Donc les Kurdes savent se réunir. Là, maintenant, il y a actuellement un projet d'une conférence nationale kurde qui réunirait l'ensemble des partis politiques pour qu'il y ait une espèce de pacte national. Quels sont nos intérêts nationaux et comment le faire aboutir dans le respect de la diversité, parce que la société kurde, 40 millions de Kurdes, évidemment, ça ne peut pas être monolithique. Il y a une diversité confessionnelle, il y a une diversité culturelle, il y a une diversité politique, et heureusement, parce qu'on ne veut pas avoir un seul, deux partis, trois partis, il faut qu'il y ait des opinions différentes qui s'expriment. Et ce projet avance.
Ce rassemblement pourrait avoir lieu quand et où ?
Il y a eu plusieurs réunions préparatoires dans la seule partie du Kurdistan qui est libre, au Kurdistan irakien, donc dans la capitale, à Erbil. Les idées avancent, mais bon, il faut encore du temps pour aplanir les difficultés, parce que cette région-là aussi est soumise à la fois donc aux assauts de Daesh, puisqu'on a beau de dire les djihadistes, l'État islamique sont une menace mortelle pour la région, pour l'ensemble du monde. Mais les seuls qui se battent concrètement sur le terrain, ce sont les Kurdes. Mmh. Et malheureusement, on ne les aide pas.
Oui, puisque la coalition a fait le choix de bombarder, de ne surtout pas mettre un pied au sol. Donc, il y a bien une réflexion commune d'ordre politique aujourd'hui pour essayer de définir ce qui serait
un pacte
national. Donc, c'est quoi? Une déclaration de valeur, un pacte d'orientation? Quel pourrait en être le contenu? Est-ce que les uns et les autres en savent quelque chose?
Mais c'est une stratégie nationale en disant...
Kendall Nezan.
Oui, c'est une stratégie nationale. Donc, quels sont les objectifs nationaux? Nous sommes un peuple, nous avons le droit à l'autodétermination. Les frontières nous ont été imposées. On ne peut pas faire fi des frontières, mais le monde évolue. Et dans ce monde qui évolue, quelle doit être notre stratégie politique, diplomatique, éventuellement militaire? Et évidemment, c'est une très, très longue préparation.
Effectivement. C'est vers Aydin Izouli, allez-y.
Oui, c'était prévu donc un congrès national kurde l'été dernier. Donc, après, il y a eu certains problèmes, justement, l'attaque de Daesh à l'encontre de Kobani et certaines positions donc, au Kurdistan de Rojava syrien, donc en juillet 2013. C'est pourquoi ça a été retardé. Aujourd'hui même, ce matin, donc, il y a même cet après-midi, il y a eu une déclaration de presse là-dessus. Les Kurdes syriens ont été réunis, toutes tendances différentes, sous l'égide de présidence du Kurdistan irakien, Massoud Barzani. Et il a été conclu donc un accord. Les trois points principaux sur lesquels donc, l'accord, c'était un commandement militaire commun.
Unifié, ouais.
Effectivement. Une sorte d'administration locale en commun. Et troisième point, c'est la constitution d'une sorte de conseil supérieur qui définit la politique à prendre pour le Rojava. Mais tous ces trois points principaux, donc le commandement militaire commun, administration ensemble et une autorité politique supérieure qui rend les décisions stratégiques, vont dans le sens de la conclusion d'un congrès national pour les quatre parties du Kurdistan.
Donc, excusez ce mot affreux, vous profitez entre 10 000 guillemets de la situation actuelle pour reconstituer ou constituer un bloc kurde plus puissant. Je me trompe ? Je vais trop loin en disant ça ?
C'est la situation, l'urgence et la gravité de la situation qui nous impose finalement à dépasser nos divergences et à nous retrouver autour des objectifs communs.
Mmh. Ali de la Marie, représentant, je le disais, vice-président du gouvernement régional du Kurdistan irakien, c'est vous qui êtes en quelque sorte le laboratoire de ce que pourrait être un Kurdistan libre et autonome.
Tout à fait, oui. Aujourd'hui, vous savez très bien que le seul parti du Kurdistan, c'est le Kurdistan d'Irak qui est libre. Mais on travaille aussi pour que les autres parties du Kurdistan aussi deviennent exactement de la même sorte que nous. Donc c'est notre objectif d'aider notre frère dans d'autres parties, du Kurdistan, deviennent exactement une sorte de fédéralisme ou confédéralisme à l'avenir.
Ça pourrait être ça la forme.
Exactement. Et puis la stratégie du gouvernement régional, vraiment que chaque partie du Kurdistan de travailler avec le gouvernement, d'obtenir vraiment l'autodétermination de son territoire.
Mmh. Ajar Abdollahi, est-ce que vous pensez, vous qui êtes kurde d'Iran, que le gouvernement central iranien voit d'un bon œil tout ce qu'on est en train de décrire depuis un bon quart d'heure maintenant, à savoir l'émergence peut-être un jour des États-Unis kurdes ?
Le gouvernement central iranien, je ne pense pas évidemment que non, il ne le voit pas d'un très bon œil, très loin de là je dirais. Néanmoins, effectivement, c'était quelque chose pour les Kurdes d'Iran, où il y a la nécessité de prendre en compte la réalité géopolitique de la région. Et ce qui est revendiqué, c'est tout simplement le droit, comme l'a dit M. Kendal Nezan, à le droit à l'autodétermination, mais surtout la possibilité de revendiquer son identité culturelle, linguistique, sociale et identitaire. Mmh. Et effectivement,
ça s'accorde, je dirais, peut-être assez facilement. Ce qui s'accorde plus difficilement, c'est un État souverain dans ses propres frontières.
Voilà. Mais ça serait plutôt au sein d'un Iran qui est déjà lui-même particulièrement compliqué, tant confessionnellement parlant, qu'à travers ses différentes autres communautés qui la constituent, une large autonomie dans le même système que le laboratoire du Kurdistan d'Irak, au sein d'un Iran démocratique, pour lequel effectivement une autonomie des Kurdes serait effectivement beaucoup plus large, hormis la question des relations internationales qui reviendrait probablement à Téhéran et au régime central. Mais dans l'état actuel du régime iranien, ce n'est évidemment pas du tout pensable en l'état actuel.
J'ose à peine poser la question à Kendal Nezan pour la Turquie. Vous êtes kurde de Turquie. Comment la Turquie voit d'un œil ou écoute d'une oreille ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ici, au cours de ce sommet informel des Kurdes de la région?
Mais écoute, elle voit rouge, donc elle ne voit pas d'un bon œil. Il faut dire que jusqu'à 1991, l'usage même oral de la langue kurde était interdit. On vient vraiment de loin. Depuis le 91 ans de la République turque, pendant 72 ans, les régions kurdes étaient soumises à la loi martiale. Donc ce que le Kurde essaie de faire maintenant, grâce au processus de démocratisation progressive, c'est de gagner les élections locales, de gagner les municipalités. C'est ce qu'ils ont fait lors des dernières élections municipales du printemps dernier. D'imposer une espèce d'autonomie locale où ils peuvent avoir des droits culturels, des droits linguistiques, etc. Et l'avenir, ça serait effectivement d'avoir un système fédéral avec la Turquie. Mais à terme, je pense qu'on ne va pas y échapper. À terme, il va y avoir un Kurdistan, puisque quoi qu'on a fait, on a divisé cette région largement.
Je dis pour les auditeurs, tous les participants disent oui et hochent de la tête en entendant cette phrase. Hein.
Parce que, vous savez, en 1900, après la Première Guerre mondiale, déjà le président américain Woodrow Wilson disait que pour la paix et la stabilité de la région, il faut qu'il y ait un Kurdistan, une Arménie et puis une Arabie rassemblant une grande partie du pays arabe. Mais la France et la Grande-Bretagne, qui étaient des puissances coloniales, ont, ont su jouer le temps. Wilson est resté 6 mois à Paris. Il n'a pas pu faire aboutir donc, son projet. Dès son départ, donc, on a partagé la région selon les intérêts coloniaux des uns et des autres. Et on a imposé cette camisole de force au peuple kurde qui, depuis un siècle déjà, se battait pour son indépendance. À l'époque, on était 3 millions. Malgré tous les massacres, les déportations, tous les malheurs vécus, on n'a pas pu éliminer les Kurdes comme les Turcs avaient su éliminer les Arméniens et les Grecs d'Anatolie. Et là, maintenant, on est 40 millions. Donc, les Kurdes sont urbanisés, on a des élites, on a 1 200 000 Kurdes en Europe. Le problème kurde est devenu un problème européen aussi.
Vous avez des terroristes, dit le gouvernement turc.
Alors, on a, le gouvernement turc est bien placé pour parler du terrorisme. Parce que quand on détruit 3 400 villages kurdes, quand on déplace 2 millions de personnes, moi j'appelle ça le terrorisme d'État.
Mais n'invalide pas ma question pour autant.
Oui, non, mais de toute façon, des gens qui ont pris les armes dans les années 80, ils ont pris dans un contexte particulier parce qu'il y avait un coup d'État militaire. La Turquie, officiellement, publiquement, avait arrêté 650 000 personnes. Et tous les jours, il y avait des gens qui mouraient sous la torture. Une partie de jeunes ont pris les armes. Et ils ont eu recours à la lutte armée. Mais bon, quand on a recours à la lutte armée, quel que soit le pays d'origine, l'histoire coloniale récente le montre aussi, les autres sont des terroristes. Et effectivement, la Turquie a su criminaliser la résistance d'une partie de la jeunesse kurde, des Kurdes en Turquie.
Et le président Erdogan, aujourd'hui même, a critiqué la politique de largage de munitions par les Américains pour le renfort et le soutien à Kobané en disant deux choses. Un, que certaines de ces armes étaient tombées entre les mains des djihadistes. Et deux, que ces armes étaient entre les mains des Kurdes de Syrie, terroristes, organisations terroristes. Alors, Seve Aydin Izuli, comment vous prenez ce qualificatif-là?
Eh bien oui, pour Erdogan, tout ce qui bouge, tout ce qui réclame être kurde, pour lui, c'est de terrorisme. Et pour lui, il ne voit pas autrement la question. Et moi, je voudrais dire également, pour le Kurdistan syrien, pour le Rojava, cette question d'État, je trouve quand même hallucinant que nous, les Kurdes, on est toujours obligés de dire, de se défendre. Ah non, non, nous ne voulons pas un État indépendant du Kurdistan, s'il vous plaît, donc regardez-nous autrement. C'est un principe basique. Chaque peuple a le droit à l'autodétermination et lorsque le peuple kurde sera en mesure de s'exprimer sur cette question, c'est au peuple kurde de le dire. Et si c'est l'indépendance et la création d'un État indépendant, pourquoi pas? Pourquoi il y a 22 États arabes? Pourquoi il n'y aura pas un État kurde? Pourquoi il y a 36 États européens? Pourquoi il n'y aura pas un État kurde? Donc je trouve ça complètement...
Donc vous allez encore plus loin, vous. C'est une confédération informelle autour de... d'enjeux culturels, non, c'est un vrai pays que vous voulez.
Mais je dis, c'est au peuple kurde, effectivement, d'exprimer sa volonté, c'est le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est ratifié, qui est écrit, qui est revendiqué dans la Charte des Nations Unies, pourquoi pas pour les Kurdes. Pour revenir à la question de Erdogan et le PYD, je dirais qu'au...
Parti autoritaire, peut-on dire au minimum
Oui, mais encore faut-il mesurer et puis placer les choses dans leur contexte. En Syrie, vous voyez, les Kurdes syriens ont été même privés de leur nationalité. On a 400 000 personnes apatrides. C'est après la révolution syrienne qu'Assad, par une manœuvre pour manipuler les Kurdes, leur a donné la nationalité. Dans la pratique, ça n'a pas été encore le cas, mais l'opposition syrienne n'a pas su se prendre une position très claire et nette pour attirer les Kurdes à leur côté. Et aujourd'hui encore, on a beaucoup de divergences sur la manière où l'opposition nous voit l'avenir de la Syrie. Et la Turquie a joué un rôle très important parce que s'il y avait la déclaration de Damas, donc une plateforme qui regroupe l'opposition syrienne, qui admettait une sorte de fédéralisme pour les Kurdes et qu'aujourd'hui une partie de la coalition syrienne avait signé avec le Conseil national kurde un accord reconnaissant un peu une sorte de fédéralisme, on voit que sous la pression de la Turquie, la coalition syrienne recule petit à petit sur la reconnaissance des droits des Kurdes. Donc de la même manière où la Turquie a joué négativement en Turquie, essaye quand même de manipuler l'opposition syrienne pour la reconnaissance de ses droits.
Merci à tous les quatre. Je vais juste vous demander quatre mots. Vous voyez l'émergence possible d'un Kurdistan tel que vous l'avez décrit. À quelle échéance ?
Dans quelques décennies.
Quelques décennies. Et vous ?
D'ici un quart de siècle, 25 ans.
Oui ?
Bientôt, bientôt.
Oui, bah vous êtes irakien, donc c'est déjà quasiment fait.
Et moi vous aussi, je pense que c'est bientôt.
Bientôt, ça veut dire quoi ?
Si Daesh a réussi à faire éclater Sykes-Picot et les frontières entre la Syrie et l'Irak,
ça peut aller très vite.
Oui.
Merci à tous les quatre, en tout cas, pour cette rencontre au sommet des Kurdes des quatre pays, Syrie, Irak, Iran et Turquie. Bon courage à vous et aux vôtres qui sont sur le terrain, les seuls, vous l'avez dit Kendall Nézan tout à l'heure. À suivre, il est 18h41, Enki Bilal. Un jour dans le monde sur France Inter. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said. She's singing, don't fuck with my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't fuck with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. And for a couple weeks I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and we're missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't fuck with my love. That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't fuck with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. On my hotel door, I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next. Until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same fucking hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment. But it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realized what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't fuck with my love. On va pas traduire toutes les paroles de Don't d'Ed Sheeran. On file tout de suite voir Enki Bilal et compulser avec lui ses planches et ses cartes.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Avec donc une séquence BD aujourd'hui dans l'émission. Christine Siméon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes venue avec le nouvel album d'Enki Bilal. Enki Bilal qui est aujourd'hui rédacteur en chef de notre site internet franceinter.fr. Tout d'abord, première question, à quel point de la planète s'est-il intéressé Enki Bilal ce matin en faisant sa revue de presse ?
Kobané, justement.
Eh ben, dont on parlait à l'instant.
Nicolas, dont vous avez longuement évoqué et le sort d'un Kurdistan possible, en fait. Enki Bilal, ben, vous pourrez le lire sur le site internet, dit « Je suis sidéré désespérés de voir ça. On laisse la Turquie hésiter. Vous parliez d'Erdogan tout à l'heure. Et notre intervention à nous, Français, ne sert à rien. Mmh. On est bien trop suiviste par rapport aux Américains. Un Kibilal qui est gourmand d'informations, défenseur de la presse papier et toujours aux aguets de l'état du monde. C'est sa matière première quand il écrit ses histoires. Il explique cela très bien dans la vidéo que nous avons mis en ligne. Écoutez, Nicolas, il vous parle aussi à vous.
La radio que vous me faites écouter, moi j'écoute la radio, je me passionne pour le monde, le même monde que vous, journalistes, vous qui faites des radios, qui faites des télévisions et qui parlez de ce monde. Donc on est, je vous suis, je vous lis, je vous écoute. Les sujets viennent à moi plus que je ne vais les chercher. Les sujets viennent à moi. Et après c'est moi qui passe pour le pessimiste, le sombre, le déprimant, le déprimeur général. Non, moi, tout ça, c'est ma nourriture. Hein. Je pense que ce 20e siècle aura été le plus monstrueux et le plus beau, sans doute. Parce que c'est toujours pareil. La beauté peut cohabiter avec l'horreur la plus abjecte. Et donc, c'est un peu ça, ce 20e siècle.
Allez, on salue Enki qui doit être en train de nous écouter. Christine, comment l'actualité résonne dans son dernier album ?
Oui, la couleur de l'air, eh bien, c'est du côté des catastrophes naturelles qu'il est allé chercher en fait. Il imagine la planète qui se révolte contre l'humanité. La Terre invente des cataclysmes qui empêchent même les humains de se faire la guerre. Donc, il a repris les personnages des albums Animals et Julia et Rome pour les faire converger vers un lieu encore un peu vivable sur la planète. C'est une histoire de survivants, cannibales parfois, de personnages hybrides traversant les mers à l'intérieur des dauphins. La matière graphique évolue au fil du temps car il imagine quand même une fin heureuse pour ces personnages. Il refait la carte de l'Europe au fil de l'histoire. Il se fait un peu géographe de notre avenir. Il établit par exemple les cartes de la recomposition du bassin méditerranéen. Il faudrait peut-être faire un sommet d'ailleurs à Viten Kibilal pour recomposer le Kurdistan. Carte avec source satellitaire bien sûr, son Europe natale a complètement éclaté. Ce qui nous ramène au fait que notre continent porte en lui la blessure toujours béante de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, on parle de la Bosnie tripartite, il y a eu des élections il n'y a pas si longtemps. Mais comme dit Enki Bilal, la Bosnie, tout le monde s'en fout. Or, Nicolas, l'ex-Yougoslavie, pays natal d'Enki Bilal, n'est-elle pas géographiquement le ventre de l'Europe ? On écoute Enki Bilal.
Le plus grave, c'est de savoir qu'en Bosnie, par exemple, non loin de Sarajevo, dans certains villages, ou même dans certaines petites villes, les écoles, de nouveau, ont des programmes différents. C'est-à-dire que vous avez le matin, par exemple, les petits musulmans qui viennent apprendre leur programme, et l'après-midi, ce sont les petits croates qui viennent apprendre leur programme. Le programme des petits croates, il vient de Zagreb, et celui des petits musulmans de Sarajevo. Tout est fait pour que ça reparte, on va dire. Notamment sur l'enfance, c'est ce qu'il y a de pire. Donc voilà, mais ça, c'est pas moi qui l'invente, ça, c'est la réalité de... Et puis comme évidemment la Bosnie, ça n'intéresse personne en Europe, et que maintenant on a aux portes de l'Europe, aux portes de la Turquie, on a l'islamisme que l'on sait est fou, bon...
Bon, voilà pour le sentiment d'Enki Bilal sur le monde, à retrouver sur franceinter.fr avec toutes les explications sur cet album, donc La couleur de l'air. C'est la fin de la trilogie, Christine. Hein,
commencé avec Animals, effectivement, en 2009 et qui paraît chez Casterman.
Merci Christine Siméon d'être passée dans Un jour dans le monde. Vous revenez quand vous voulez, 18h49. Thanks so much for that report. Partout ailleurs, bonsoir Eric Balmire.
Bonsoir Nicolas.
La Californie ce soir, dans un centre qui soigne les soldats américains de retour au pays.
Le Pathway Home, un centre thérapeutique fondé par Fred Gusman, pionnier dans la prise en charge des traumatismes de guerre, lui-même vétéran du Vietnam. Les soldats américains qui rentrent d'Irak ou d'Afghanistan sont souvent livrés à eux-mêmes. Et c'est le thème d'un documentaire qui sort en salle aujourd'hui en France. Des hommes et de la guerre, film de Laurent Bécu-Renard. 5 ans de vie partagée avec ces hommes, de retour à la maison, vivant, mais l'esprit en morceaux.
Like I wake up in the middle of the night.
Je me suis réveillé en pleine nuit.
And start yelling at her to get the fuck up.
J'ai dit à ma femme, debout, magne-toi.
I'd be like, get up. And she's like, what the fuck are you on?
Et elle, tu pètes les plombs ou quoi?
And I'd be like, get up.
Moi, debout.
And she's like, it's okay, nothing's happening.
Elle, tout va bien, relax.
Just get up.
Moi, debout, discute pas.
And yelling at her.
Je lui gueulais aux armes.
Were you feeling?
Que se passait-il dans ta tête?
It was war again. My head, these motherfuckers.
Je revivais la guerre. L'ennemi nous surveillait. Les voisins étaient de mèche. Je suis sorti faire le guet avec mon flingue. en tenue de camouflage, sur le balcon toute la nuit, prêt à tirer. J'attendais. J'ai envoyé ma femme à l'abri dans la cuisine, où il n'y avait pas de fenêtre. C'était facile d'assurer sa défense.
Plutôt flippant, ce quotidien peuplé d'ombres et de fantômes. Devant leur propre famille, qui ne les reconnaissent plus, doivent combattre un ennemi invisible qui sommeille au fond d'eux.
Tu t'emportes sous prétexte que je te materne trop. Mais je ne veux être ni ta mère, ni ton infirmière. Je veux être ton amoureuse. J'en ai marre de... C'est cruel. Tu reviens enfin de la guerre.
Et je suis comme un étranger.
Longtemps, tu n'as pas admis que tu faisais un choc post-trauma. Dès qu'on t'en parlait, oh mon Dieu, tu pétais un câble. J'ai juste peur que tu baisses les bras.
Je vais m'accrocher pour notre couple. J'ai peur de mes vieux démons.
Ça m'effraie aussi que tu t'enfermes pour jouer à l'ordi et boire seul pendant des heures et des heures et que tu t'enfonces dans ce trou noir.
Moi aussi, j'ai peur. Je continue à boire pour faire face. Je me drogue aussi. Je passe sans cesse d'une chose à l'autre, à la recherche d'une parade, mais rien ne semble marcher.
Même pas mes menaces de divorce.
Et les traumatismes aussi, qui ne sont pas forcément liés aux souvenirs du front, la tension permanente, la menace, la mort qui rôde, et des fonctions subalternes qui n'en sont pas, comme brancardier par exemple.
J'ai ouvert une portière et là, un torrent de sang. Les cadavres avaient été balancés tels quels, empilés, putain. J'ai dû littéralement démêler les corps pour les répartir sur des civières. Sauf que tu ne peux pas vraiment monter dessus et du coup tu n'as pas de prise. Tout est enchevêtré comme un amas de cordes. Des lambeaux de peau pendouillent et s'accrochent les uns aux autres. Tu distingues encore les visages, même défigurés. Tu attrapes le bras d'un gars, tu cherches les entrailles qui vont avec. C'est à lui ça ou à l'autre. Une vision d'enfer. Et pendant que je m'active, les potes de ces gars se pointent au pied du camion et hurlent en sanglots, maculés de sang. Un mec voulait récupérer l'alliance de son ami. J'avais pas le droit, il m'a menacé hystérique avec son flingue. D'autres insistaient pour me raconter, il est marié, etc. Et moi, fermez vos gueules, je veux rien savoir sur personne, ni sur toi, ni sur eux. Je ne veux pas les pleurer avec toi. Si je l'avais fait pour chacun d'eux, je serais devenu cinglé, il aurait fallu m'interner. Lockdown facility.
Et pour ne pas devenir cinglé, la musique, le yoga, des séances de discussion en groupe avec des abandons en cours de route. Avant, je refoulais, c'était indolore. Tout faire monter à la surface me donne la haine et la souffrance. Le thérapeute explique alors que c'est une étape logique dans le processus. Ils ne pourront jamais oublier, mais pour s'en sortir, ils doivent apprendre à vivre avec, pour eux, pour leur famille, et parce que aussi, la vie doit triompher sur la mort. Un sujet sensible et subtilement traité par Laurent Bécu-Renard, des hommes et de la guerre, dès ce soir en salle.
Merci Eric Valmire, ils étaient poignants, très durs hein, ces témoignages, 18h54. Le mercredi, c'est aussi Anthony. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Une histoire dans le monde en forme d'adieu. Adieu Pépé.
Adieu à José Mujica, alias Pépé. Effectivement, vous avez raison, pour les Uruguayens, pour mémoire, hein, José Mujica, c'est le président de son pays de 3,5 millions d'habitants, et ce depuis 2010. Et comme beaucoup de présidents d'Amérique du Sud, il n'a droit qu'à un seul mandat. Alors le 26 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, eh bien les Uruguayens lui choisiront un successeur la mort dans l'âme, figurez-vous, parce qu'il est populaire, Pépé. Il a 56% de ses compatriotes qui approuvent sa gestion du pays. Alors, à presque 80 ans, sa légende populaire et personnelle eh bien, continuera, certes, mais en dehors des palais présidentiels et loin du protocole et des sommets de chefs d'État que, par ailleurs, il n'a jamais apprécié.
Ouais, parce que c'est le président des pauvres.
Et oui, il aurait presque pu être pape, Pépé, à la façon du pape François, s'il n'était pas si ouvertement athée, ce qui d'ailleurs est une rareté sur un continent très religieux, où même le vénézuélien Chavez, souvenez-vous, en appelait à la Vierge. Mais c'est vrai qu'il a la réputation d'être le président le plus pauvre du monde, refusant d'habiter dans sa résidence officielle de Montevideo et préférant sa petite maison de banlieue, ses poules et son chien à trois pattes. C'est vrai qu'il ne gardait que 10% de son traitement de président, à savoir l'équivalent du salaire moyen des Uruguayens, environ 800 euros. Les 90% restants ont été reversés pendant 4 ans à des œuvres caritatives. On l'a vu aussi attendre son tour dans un hôpital public pour voir un médecin. Et ce n'est pas de la com, non, non. Il est comme ça, Pépé. Il refuse les gardes du corps, les voitures officielles avec gyrophares et préfère conduire sa vieille coccinelle hors d'âge.
Et il a beaucoup réformé aussi.
Et oui, oui, il a bossé quand même. Hein. Au point même de faire de son pays une référence. Par exemple, l'Uruguay est le premier pays d'Amérique latine à avoir dépénalisé l'avortement. C'est important. C'est aussi le premier pays au monde à légaliser le cannabis.
C'est important aussi.
D'accord. Bon, je vous laisse votre commentaire. L'Uruguay a aussi accueilli des dizaines de familles de réfugiés syriens. Encore récemment, 43 familles accueillies au pied de l'avion par Pépé Mujica, évidemment, sans oublier 7 prisonniers de Guantanamo qui viennent d'y trouver refuge. Il faut dire que la prison, Pépé, il connaît. Il a passé 14 ans dans celle de son pays, à l'époque de la dictature, douteux privilège qu'il partage avec Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, qui, comme lui, est une ancienne guérillera. Les deux sont d'ailleurs très fiers de savoir monter et démonter une Kalachnikov en quelques minutes, et les deux ont été torturés pendant des années dans leurs pays respectifs, à savoir les années 70 et 80 du siècle dernier.
Oui, et les deux sont d'ailleurs aussi emblématiques de cette gauche sud-américaine qui est enfin, j'ose dire, parvenue au pouvoir.
Oui, c'est vrai. La retraite de Pépé Mujica est aussi un peu celle de toute une génération de révolutionnaires et de guérilleros qui, petit à petit, eh bien, malgré tout, s'efface pour laisser la place à des leaders de gauche, certes, mais plus jeunes et puis plus lisses aussi, il faut bien le dire. Cela dit, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ces vieux briscards, il reste Dilma Rousseff, donc, mais aussi la chilienne Michelle Bachelet, détenue et torturée par Pinochet. Et puis, il y a aussi le bolivien Evo Morales, leader syndical et indien Aymara, qui vient d'être réélu. Les autres, eh bien, de l'Équateur au Pérou, en passant par le Venezuela sont certes de gauche, mais tellement moins, comment dire, romantiques.
Merci Anthony Bélanger et bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne, c'est dans 23 minutes exactement, à 19h20.
Et sur on quoi parle du numérique à l'école. Où sommes-nous aujourd'hui des outils et des usages de l'école 2.0? Les enfants sont-ils équipés? Les profs bien formés? Et les parents bien informés? Mais d'ailleurs, de quoi parlons-nous quand on parle du numérique à l'école? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle discipline ou d'une nouvelle pédagogie? Et le cas échéant, que change cette pédagogie dans le statut de l'enseignant? Et donne-t-elle plus de chances aux élèves pour réussir? Voilà, c'est une émission en direct. Et en public ce soir au studio 611 de la Maison de la Radio. J'attends vos questions.
Par lettre, par courrier, à l'ancienne, avant le numérique.
C'est cela, par téléphone quand même.
Aussi, ouais.
Sur les réseaux sociaux, c'est un tout petit peu plus moderne. Franceinter.fr, Facebook, Twitter avec le hashtag Telson. Et donc, en direct, vous venez nous rejoindre au studio 611 et vous venez poser vos questions.
Merci beaucoup Hélène. Rendez-vous donc à 19h20. Merci également à Ronan Mahé et Alice Berger qui étaient à la technique ce soir. À Nathalie Poitvin qui a réalisé l'émission. Sarah Masson qui l'a préparé. Un mot pour vous dire que demain, c'est une journée spéciale exil et migration sur France Inter. Le 7-9 de Patrick Cohen sera en direct de Calais. Un jour dans le monde également avec Michel Agier, demain à 18h15, anthropologue pour son livre Un monde de camp. Et le téléphone sonne, Hélène sera aussi consacrée à ce sujet.